74, Avignon et le château des papes, la Provence et la Croix, l'arrivée d'André et de Julien à Marseille, un nouveau sujet d'anxiété. Le pauvre peut aider le pauvre aussi bien et souvent mieux que le riche. Au bout de 3 heures, le train s'arrêta à la gare d'Avignon. Le chemin de fer envoyait la ville et André montra en passant à Julien un gros monument situé sur le penchant d'un rocher et qui, avec ses vieux créneaux, ressemble à une forteresse. C'était l'ancien château où les papes résidaient lorsqu'ils habitaient le comtat vénétien, enclavé dans la Provence. Pendant ce temps, le train s'était remis en marche. On traversa sur un beau pont la Durance, ce torrent terrible par ses inondations, qui descend en courant des montagnes et dont les eaux, amenées par un long aqueduc, alimentent la ville de Marseille. Bientôt, la campagne de la Provence, qui avait été jusqu'à présent couverte de cultures et où on apercevait le feuillage gris des oliviers, devint stérile. Sans herbes et sans arbres. Les enfants étaient entrés dans les plaines de la Croix, puis de la Camargue, desséchés par le souffle du mistral couverte de cailloux, et qui ressemble à un désert de l'Afrique transporté dans notre France. Là, paissent en liberté de nombreux troupeaux de bœufs noirs et de chevaux demi-sauvages semblables aux chevaux arabes. Puis on entra sous un grand tunnel, celui de la Nerthe, qui a plus d'une lieue de long. Peu de temps après, on arrivait dans la vaste gare de Marseille, et les deux enfants sortirent de wagon au milieu du va-et-vient des voyageurs. Ils se sentaient tout étourdis du voyage et assourdis par les sifflets des locomotives, par le fracas des wagons sur le fer, par les cris des employés et des conducteurs de voitures. André s'informa avec soin du chemin à suivre pour se rendre à l'adresse de son oncle. Puis, courageusement, il reprit Julien entre ses bras, et à travers la foule qui allait et venait dans la grande ville, il s'achemina tout ému. « Quoi, pensait-il ? Nous voilà donc enfin au terme de notre voyage. Mon Dieu, pourvu que nous trouvions notre oncle et qu'il se montre content de nous voir. » Le petit Julien n'était pas moins ému qu'André. Il faisait les mêmes réflexions sans oser le dire. En même temps, il admirait le courage de son aîné dont le calme et la douceur ne se démentaient jamais. Enfin, on atteignit la rue tant désirée. Avec un grand battement de cœur, on frappa à la porte et on demanda « Franz Walden ». Un marin d'une quarantaine d'années va ouvrir et répondit « Franz Walden n'est plus ici. Voilà tantôt 5 mois qu'il est parti. »« Mon Dieu !» s'écria André avec anxiété. Et il devint tout pâle comme s'il allait tomber. Mais bientôt, surmontant son trouble, il reprit. « Où est-il allé, savez-vous, monsieur ?»« Parbleu, jeune homme, dit celui qui avait ouvert la porte. Entrez vous reposer. Franz Walden est mon ami. Nous causerons mieux de lui dans la maison que sur la porte. »« Le mistral n'est pas chaud ce soir. On voit que nous arrivons à la fin de novembre. » Et le brave homme, montrant le chemin aux enfants, marcha devant eux dans un corridor étroit et sombre. André suivait, portant Julien sur ses bras. Le petit garçon était bien désolé, mais il se rappela fort à point les résolutions de courage qu'il venait de prendre après avoir lu la vie du chevalier sans peur et sans reproche. Il voulut donc faire aussi bonne figure devant cette déception nouvelle que le grand baillard eût pu faire en face des ennemis. On arriva dans une chambre où la femme du marin préparait le souper. 3 enfants en bas âge jouaient dans un coin. André s'assit près de la fenêtre et le marin en face de lui. Voici ce qui en est, reprit le marin. Ce pauvre Walden avait en Alsace-Lorraine un frère aîné avec lequel il a eu des torts jadis, ce qui fait qu'il ne s'écrivait point. Depuis la dernière guerre, Franz songeait souvent au pays. Il se disait tous les jours « Mon aîné doit être bien malheureux là-bas, car il a subi les misères de la guerre et des sièges. Mais moi, j'ai quelques économies et je lui dirai « Oublie mes torts, Michel. Viens-t'en en France avec moi. » Nous achèterons un petit bout de terre et nous ferons valoir cela à nous deux. » Mais auparavant, Franz avait des affaires à régler à Bordeaux, et il est parti par sel pour s'y rendre, travaillant le long de son chemin à son métier de charpentier de marine afin de se défrayer du voyage. « Hélas, » dit André tristement, « nous venons, nous, jusque d'Alsace-Lorraine pour le trouver. Nous sommes les fils de ce frère qu'il voulait revoir et qui est mort. Mais en mourant, notre père nous avait fait promettre d'aller rejoindre notre oncle et nous sommes venus. » Nous avions d'abord écrit 3 lettres, mais on ne nous a pas répondu. « Je le crois bien, » dit le marin en ouvrant son armoire et en montrant les 3 lettres précieusement enveloppées. « Elles sont arrivées après le départ de Franz. J'attendais à avoir son adresse pour les lui renvoyer, mais depuis 5 mois, il ne m'a pas donné signe de vie. » André réfléchissait tristement. « Comment allons-nous faire ? » dit-il enfin. « Nous ne savons pas l'adresse de notre oncle à Bordeaux, et d'ailleurs, nous ne pourrions aller jusque-là. Mon jeune frère ne peut plus marcher, il est au bout de ses forces. » D'autre part, nous n'avons plus assez d'argent pour prendre le chemin de fer jusqu'à Bordeaux. « Allons, allons, ne vous désolez pas à l'avance, » dit le marin. « Les pauvres gens sont au monde pour s'entraider. Nous ne sommes pas riches non plus, nous autres. Mais à cause de cela, on sait compatir au malheur d'autrui. »« Eh oui, » dit la femme du marin, « Nous vous nous aiderons tous et le bon Dieu fera le reste. Voyons, mettons-nous à table. Mon mari est un homme de bon conseil. En mangeant, il va débrouiller votre affaire, n'est-ce pas, Jérôme ? En même temps, l'excellente femme avait attiré la table dans le milieu de la chambre. Bon gré mal gré, elle plaça André à sa droite et Julien à sa gauche. Elle mit ses deux fils aînés, de beaux jumeaux de 4 ans, de chaque côté de leur père. Puis elle plaça sur ses genoux sa petite fille, la dernière née, et le sourire aux lèvres, elle servit à chacun une bonne assiette de cette soupe aux poissons qui est le mets favori de la Provence.